Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
L'actualité sportive marquée par la disparition de Charlie Dalin, le vainqueur du dernier Vendée Globe, décédé à 42 ans d'un cancer. Pierre-Yves, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour Vincent.
Cette maladie l'a accompagné pendant les derniers mois de sa carrière. Il portait ce cancer pendant son tour du monde.
Oui, c'était son passager clandestin, comme il disait, peut-être depuis longtemps hein, d'ailleurs. Cancer gastro-intestinal, une tumeur de 15 cm qui avait été découverte en novembre 2024, un an avant le départ du Vendée Globe. Mais Charlie, garçon discret, avait tenu à partager ce secret qu'avec sa garde rapprochée. Et c'est simplement en octobre dernier, dans son livre La Force du Destin, qu'il avait expliqué au grand public eh bien, ce mal dont il souffrait, le traitement pris pendant toute la course, et puis cette maladie qu'il savait incurable en l'état actuel de la science. Et même quand le président Emmanuel Macron l'avait appelé juste après sa victoire, il l'avait remercié tout en se retenant de lui dire « Vous ne savez pas tout, président ». Et puis quelques jours après être passé vous voir également au studio, il s'était fait enlever cette tumeur, mais il avait beaucoup de mal à récupérer au point de ne plus pouvoir naviguer. On savait depuis quelques jours que l'issue était malheureusement irrémédiable.
Et la famille a annoncé son décès dans la journée. Alors si on revient à l'aspect purement sportif, c'est un marin qui a marqué la compétition sur cette dernière décennie. Hein.
Ah oui, la course au large, effectivement, dans cette spécialité du monocoque, il était effectivement le meilleur, capable de couper en premier la ligne des deux derniers Vendée Globe. C'était un exploit inédit, mais sans avoir remporté le premier, puisque vous vous souvenez, il avait dû laisser la victoire à Yannick Bestaven, tu te souviens, Vincent,
bien sûr,
effectivement, parce qu'il avait bénéficié d'une compensation de temps pour cette détournée.
Parce qu'il s'était arrêté, parce qu'il y avait eu un naufragé.
Exactement. Ouais. Et il a été élu deux fois champion de France de la course au large, cinq fois de suite sur le podium de la solitaire du Figaro, mais il lui manquait cette très grande victoire du 14 janvier 2025 contre tous ses adversaires sur l'eau et puis ce passager clandestin. Il avait été élu marin de l'année en décembre dernier par la Fédération Internationale et la Fédération Française. Et on a une pensée toute particulière évidemment pour ses proches, Perrine, son épouse et puis Oscar, son fils, ses étoiles la nuit et ses soleils le jour comme il le disait si bien.
Merci beaucoup Pierre-Yves pour
quelle tristesse.
Cet hommage à Charlie Dalin, oui, 42 ans.
Quelle tristesse, quand il venait nous voir là, il est venu quoi, une paire de fois,
il est venu. Il est venu 3 ou 4 fois au Moscato Show.
Bravo type, hein. Tu rends compte quand tu gagnes dans cet état physique, dans ce sport qui est d'une difficulté incroyable, parce que là t'es seul, tu ne dors pas.
C'est il était venu 3 jours après sa victoire dans le studio, là,
il y a des mecs costauds. Les marins sont costauds en général, mais lui c'était quand même un phénomène, c'est un seigneur.
On revient à la Coupe du Monde de foot, donc le coup d'envoi du match d'ouverture 21h sur RMC. Alors, des infos des nations phares, des nations qu'on a envie de suivre peut-être plus particulièrement, le Maroc champion d'Afrique, le Maroc demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, oui. Deux coups durs, puisqu'aujourd'hui sont actés les forfaits de l'ailier Abdé Ezzalzouli et du défenseur central Naïef Aguerd, deux véritables titulaires hein, dans cette équipe marocaine. Ezzalzouli, c'était même le joueur en forme, le détonateur de l'équipe.
Ouais, donc, il le savait au départ, non il savait
il s'est blessé lors du dernier match.
Et Aguerd, c'était une valeur sûre. Hein. En défense,
ça leur change l'autre side.
Bah oui, Aguerd c'est quand même un taulier derrière. Et Pierrot nous a expliqué que le petit attaquant là, il est fort. Ezzalzouli, c'est ça que c'est.
Ezzalzouli,
voilà. Moi j'ai une pensée pour Aguerd parce que les 6 derniers mois ont été d'une galère pour lui. Même pas la Coupe du Monde pour essayer de se faire un peu plaisir cette année. Plus Balerdi, tu vois. Comme quoi, quand tu fais des saisons difficiles, tu es marqué physiquement, tu vois. Il y en a, c'est des accidents. Hein, mais... Mais c'est un coup dur pour le Maroc. Ouais.
On retourne aux États-Unis avec Florent Germain cette fois-ci. Salut Flo.
Salut Pierrot, salut à tous.
Alors, on rentre aussi dans la compétition parce que ce soir, donc, il y a le match d'ouverture. Et peut-être que vous pouvez être surpris sur certaines phases de jeu parce qu'il y a des nouvelles consignes d'arbitrage qui vont pouvoir avoir une vraie influence sur le jeu si elles sont bien appliquées. De quoi s'agit-il exactement, Florent Germain ?
Alors déjà, moins de perte de temps, c'est le souhait de la FIFA avec ses nouvelles règles d'arbitrage. Alors très concrètement, on aura 5 secondes pour remettre en jeu sur un 6 mètres, donc une sortie de but, ou sur une touche. Alors cela s'entend à partir du moment où le joueur a récupéré le ballon, et si l'arbitre estime que le joueur ou le gardien tarde trop, il va lancer un compte à rebours visuel. 5, 4, 3. 3-2-1, donc c'est assez visible quand même. Si ce temps est dépassé, sur 6 mètres, attention, corner pour l'équipe adverse.
Ah ouais, c'est
donc,
pas la même.
Ah oui. C'est quand même pas la même, exactement. Et pour la touche, ça change d'équipe. Donc on donne le ballon à l'autre équipe. Il y aura 10 secondes également pour céder sa place lors d'un remplacement. Si le joueur qui est chargé d'entrer en jeu voit son coéquipier tarder un petit peu plus, mettre plus de 10 secondes, il devra lui attendre une minute avant de remplacer donc son joueur qui lui sera sorti. Ça voudra dire que pendant une minute, l'équipe sera potentiellement en infériorité numérique. Après, il y aura plus d'utilisation de la vidéo, le VAR. Alors certains s'en plaignent, et ben non, il y aura plus d'utilisation. Par exemple, pour vérifier un deuxième carton jaune donc donne un carton rouge, ça c'est assez logique. Avant on ne pouvait pas utiliser la vidéo pour un deuxième carton jaune.
C'est la jurisprudence, comment il s'appelle celui de la Juve là qui avait pris un deuxième jaune qui était complètement bidon là, tu te souviens?
Ah oui, dans le championnat italien.
Dans le championnat italien, c'est là où il y avait eu le plus gros scandale.
Exactement, il y avait eu ce scandale là.
Il y a Camavinga aussi.
La vidéo également peut intervenir sur un corner mal attribué ou globalement sur quand une équipe a commis une faute juste avant un coup franc, juste avant un corner ou juste avant de bénéficier d'un penalty. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des actions un peu plus élargies où la vidéo peut intervenir. Vous vous souvenez de tous ces joueurs qui mettent la main devant la bouche là? Alors ça c'est terminé.
La famille
mais
à New York il y a le droit, il paraît. Hein.
Les Lucchese. Ouais.
Non mais attention, j'ai bien lu le règlement. C'est terminé lors d'une confrontation ou d'une situation directe avec un adversaire.
Ah, alors embrouille en fait.
Non mais si Deschamps se rapproche de Mbappé pour lui dire défends un petit peu plus parce que là on est dans le dur, etc. Il prendra pas un carton rouge.
J'imagine Deschamps ne comprend pas s'il met la main devant la bouche.
Ça c'est la jurisprudence pour le coup. Prestiani, Vinicius Junior. Rappelez-vous le joueur du Benfica qui était soupçonné ou accusé d'avoir tenu des propos racistes envers Vinicius. Donc là pour le coup, la FIFA ne veut plus d'ambiguïté. Donc carton rouge. Et après pour terminer, c'est assez important de le signaler. Les cartons jaunes. Ils seront remis à zéro par deux fois vu que la compétition est plus longue après la phase de groupe et c'est après génial, les quarts de finale. Ça veut dire que en demi tu ne prends plus le risque de prendre le jaune qui te sort de la finale. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Merci Flo.
Le reste accéléré sur les touches et tout ça, je sais pas ce que ça te fait.
Alors, en fait, ça peut quand même éviter les fins de match pourris où vraiment, quand t'as une équipe qui joue à ça, en fait, elle peut être sanctionnée.
La main, c'est l'aveu plus blanc, ça, c'est pour dire que nous, on est
au-dessus.
La main, c'est l'aveu plus blanc que
moi. Non, mais ça, c'est pour éviter. C'est pas plus bête. C'est-à-dire que quand les mecs s'embrouillent, oui, bah, si
autant le faire de manière transparente.
Si tu mets ta main devant ta bouche, bon, c'est quand même une horreur.
Pour la touche,
ça ne change rien.
On a vu avec Arsenal, il le faisait beaucoup, en finale.
Alors, par exemple, oui, c'est sûr que
l'exemple.
Non mais il faudrait reprendre ces règles-là. Il faudrait reprendre ces règles-là pour le Kikadi, puisque il y en a qui tiennent à la fin.
Oui,
il joue la montre.
Ouais, c'est sûr. Tu as raison.
Prendre la graine.
Des fois, c'est Adrien qui joue la montre pour faire gagner Vincent, surtout. Ouais. Donc là, comment on fait?
Non, pas pour faire gagner Vincent, pour faire perdre.
Pour faire perdre.
Ah oui, voilà.
Je me lève le matin, je veux qu'il perde.
Merci, Florent. On continue. Il y a encore beaucoup d'actu. On reviendra au foot à 17h. Mais d'abord, on commence à avoir des infos sur l'équipe de France qui va partir en tournée dans l'hémisphère sud. C'est le rugby, bien sûr. Je vous rappelle qu'avant d'affronter les Blacks, il y a un match contre Angleterre à... On devrait y voir beaucoup de joueurs bordelais. Et l'élimination de Bordeaux, finalement, pourrait faire un heureux. C'est Damien Penaud, Wilfried Templier, qui devrait faire son retour en équipe de France.
Oui, qui va faire son retour. 29 ans, 59 sélections, Damien Penaud. Dernière sélection, 22 novembre, face à l'Australie. Il avait loupé, souvenez-vous, le dernier tournoi. Mais c'est le recordman d'essais en bleu, 40 essais. Et ben, il va s'envoler vers l'hémisphère sud. Même si sa sélection irait contre ce que dit Fabien Galthié assez souvent. Pas plus de 30 matchs et 2000 minutes de jeu sur l'ensemble d'une saison. Penaud, il a disputé 29 rencontres et un total de 2183 minutes. Mais après discussion avec le sélectionneur, il va partir. Parce que pour les mêmes raisons, Mathieu Jalibert et Louis Bielbieret ne seront pas du voyage, a priori, dans l'hémisphère sud. Alors pour les Bleus, ça va se passer en deux temps. Une première liste lundi à 10h avec 28 noms pour ce match, tu l'as dit Pierrot, à Vannes, face à l'Angleterre A. Et Penaud ne ferait pas ce match, info aussi, parce qu'il est jeune papa, on va le laisser auprès de sa famille, mais il va s'envoler après, parce que deuxième temps, c'est juste après les demi-finales, on prend les perdants, et peut-être une poignée de finalistes, 42 noms le dimanche 21 juin. Et là donc on pourrait avoir potentiellement 11 Bordelais, dont aussi une autre info, Jefferson Poirot, le pilier gauche, qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale en 2020.
Il est là.
Voilà. Lucu et Moefana également. Il y a les Montpellierains qui sont pressentis. On verra selon s'ils vont en finale ou pas. Vera, Gnouchi, Kado aussi, trois quarts centre. L'équipe, le journal L'Équipe parlait aussi, Vincent, du pilier parisien d'origine samoane, Moses Alo-Emile. Le pilier gauche pour l'emmener à droite.
Oui,
en fait, il est sélectionnable. Mais évidemment, on cherche des pistes, hein, pour les piliers. Et puis, il y aura une question en cas d'élimination de La Rochelle aussi. Partir avec ou sans Grégory Aldrit, également absent pendant le tournoi, mais il a déjà 28 matchs au compteur, il va dépasser 2000 minutes ce week-end, Grégory Aldrit.
C'est quand même significatif sur les postes de pilier. Mais juste un mot sur Penaud, c'est une vraie chance parce que c'est une vraie tournée là. C'est le nouveau format de la Coupe des Nations.
J'ai l'impression que c'est des vrais matchs. Je pensais pas que c'était chaud pour lui comme ça, mais je pense que c'était chaud pour lui et de le voir revenir, c'est super. Parce qu'il va
s'éviter quand même. Non, mais ce qu'ils ont dû mettre les choses au clair en fait.
Non, mais je pense pas. C'était
pas la méritocratie, mais
attention, il joue au centre aussi en club maintenant.
Non, mais il joue au centre.
Si Penaud part pas là avec tous les absents possibles, messieurs, quand même, s'il y a 12 ou 11 Bordelais.
Et si tu veux, si la logique avait été respectée, Bordeaux était en play-off, peut-être en demi, et puis la question ne se posait pas. Donc,
Fabien
c'est quand même une opportunité.
Fabien Galthié pourra prendre des finalistes, c'est à discrétion. Il ne faudrait pas prendre Dupont.
Il a pris 5 l'année dernière.
Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre Dupont?
Si, il prendra Dupont.
Parce que lui, les minutes, il ne les a pas dépassées cette saison.
Apparemment, non, il n'est pas pressenti.
Minutes. Je sais qu'il n'est pas pressenti.
Je vous donne une dernière info dont on aurait pu faire beaucoup plus s'il n'y avait pas cette énorme actu Coupe du Monde et rugby. Un vrai coup de tonnerre en athlétisme avec un record du monde qu'on n'attendait pas, puisque le record du monde du 110 mètres haies est tombé lors des séries du championnat universitaire américain.
C'est incroyable.
C'est Jacoby Tarp qui l'a battu en 12,75. Le précédent record datait de 2012 tout de même. Arias Merrick en 12,80.
Il l'a regardé trois fois. Quoi.
Oui, parce qu'il n'était jamais descendu en dessous des 13 secondes. Et il pense qu'il en a encore sous le pied et qu'il va encore battre le record, ce jeune homme. Jacoby Tarp, record du monde du 110.
Notez bien son nom.
Journal moyen sur RMC.
Ça peut vous aider dans un jeu à la fin du Moscato Show.